Tu connais le club Backseats ? Avec un abonnement à 15€ par mois, tu peux intégrer ce club très fermé et bénéficier de plein d'avantages. Parmi eux, ton nom au générique de l'émission, la VOD YouTube en avant-première dès le vendredi matin, les vidéos bonus en avance, l'accès aux débriefs, mais surtout, la possibilité de venir dans le public gratuitement à la dernière minute, l'invitation à des événements VIP et une magnifique carte de membre ultra collector. Le club Backseats, c'est le plus grand soutien que tu puisses apporter à l'émission, alors je te donne rendez-vous sur KissKissBankBank, le lien est en description sous la vidéo. Tout de suite, ta VOD.
Bonjour, bienvenue sur Backseat. Pour ceux qui n'étaient pas encore là, ça y est, c'est le moment de l'actualité de la semaine sur Backseat. Ce n'est pas Jean qui présente, mais Adèle, parce qu'on fait une présentation tournante en attendant le retour de Jean qui revient bientôt. Et avant de passer à l'actu du jour, comme vous êtes nombreux à nous avoir rejoints, annonce du jour le 26 mars prochain, sortie d'un documentaire sur l'année politique vue. Donc l'année politique passée, 2023, vue par Backseat, par nous tous, les chroniqueurs, on a tous participé. Lien dans le chat pour prendre ses places. Il y a une description également sur YouTube. Abonnez-vous. Il y a des codes promo. Il y a des places pour les membres du club Backseat, ceux qui disposent de ceci. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'affiche ?
C'est sur l'affiche, je me suis dit, il y en a un, je ne connais pas. Je ne dirais pas qui, mais c'est terrible.
Donc voilà, 26 mars au MK2 Bibliothèque à Paris à 20h, on se retrouve. C'est le moment de l'actu de la semaine. Alors cette semaine,
vous
du coup,
vous me direz c'est qui ?
Bizarrement, il y aura pas David, Adèle, parce que on pouvait pas tout faire. Mais j'avais quand même envie de vous partager mon petit coup de cœur de l'actu du jour qui date d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui sortait le livre de Léa, mais sortait également Paris Match avec une une. Alors vraiment, voilà, j'avais envie de la partager. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose ?
Bah ouais, Nicolas Sarkozy.
C'est fou, non ?
Incroyable.
Exactement, c'est exactement la même chose que Nicolas Sarkozy, qui lui-même s'était inspiré de...
Kennedy.
Tout à fait, là, vous êtes très très bon. On est en mode jeu à la con, là. Voilà, c'est l'identique. Il y a même pas de changement de packaging, quoi. Aucun effort, tout est pareil.
C'est à Bolloré, Paris Match.
On dirait...
On est d'accord.
Voilà, on dirait les équipes...
Et je pense que Laurence Ferrari est la patronne de la rédaction, si je me trompe.
Absolument.
Eh bien.
Voilà. Alors, il y a quand même un petit mystère intéressant.
Elle lui a d'ailleurs posé une question sur la liberté d'expression.
Tu l'as lu, toi ?
Pas en entier, j'ai lu des extraits.
Les bonnes feuilles, j'allais dire, mais non.
Non, il n'y a pas de bonnes feuilles, non.
Mais il se passe un truc un peu chelou sur la couverture que déjà a mis en feu Internet. C'est qu'il y a une espèce de truc, je ne sais pas si on peut zoomer, si on peut voir.
Les bouquins.
Il y a des bouquins posés ou en lévitation sur un autre bouquin, un peu chelou.
Ah, c'est bizarre.
Donc on n'arrive pas à savoir s'ils l'ont posé là un peu à l'arrache, si c'est vraiment comme ça qu'il range son bureau, si ça a été fait vraiment.
Je pense que cette photo a été faite avec l'IA.
Aucune idée, ça pose beaucoup de questions. Et pourquoi
c'est pense qu'il range comme ça, que c'est le signe d'un esprit malade.
Mais tu crois pas que c'est aussi une petite obsession, faut absolument que tu aies ta photo Pléiade. Faut qu'il y ait les Pléiades au fond de ta photo politique, la Pléiade, qui sont des ouvrages littéraires, une collection
ça
très
fait
belle. Usul, donc t'es venu en train, t'as lu Paris Match du coup toi ?
Non.
Tu veux lequel des deux ? Tu veux Paris Match ou tu veux
l'Uma ? Ouais, je préfère l'Uma quand même, tant qu'à faire.
Tu l'as lu aussi, non ?
Non, je l'ai pas lu.
D'accord. Bah, ça tombe très bien parce que
l'interview, oui, quand même.
Ah oui, t'as pas lu celui d'aujourd'hui, mais t'as lu l'interview de lundi. On en parlera après.
Mais ça, c'est pas celui d'aujourd'hui ?
Non, c'est celui de lundi.
Oui, voilà.
C'est l'interview. Oh là. Tu vois. Mais non, tout va bien. On en reparlera. Donc. On se retrouvera un petit peu plus tard avec notre invité politique qui sera Philippe Brun, député socialiste de l'Eure. D'où tu viens ?
D'où je viens, d'où je viens.
Incroyable. Et comme toutes les semaines, donc on avait beaucoup de sujets d'actualité, il a fallu choisir. Pour commencer, Sacha, il y a un sujet, toi, qui a retenu ton attention un peu.
Qui a un peu retenu mon attention, parce que je suis un peu, j'ai été un peu concernée l'année dernière, notamment. C'est l'avis du Conseil d'État. Qui a été rendu la semaine dernière et qui demande à l'ARCOM de mieux surveiller la pluralité des opinions sur CNews. Voilà.
Et alors, c'est ce que c'est la liberté d'expression qu'on assassine.
Moi, je pense qu'on assassine la liberté d'expression et que c'est de la censure. Voilà. Non, mais en fait, ce qui me terrifie, c'est que...
Il en fait tomber sa gourde.
George Orwell.
Dis-nous.
1984. Non, vas-y, je t'en prie.
Non, ce qui me terrifie avec cette actu, c'est que c'est encore une actu une semaine plus tard, parce que les médias possédés par Bolloré ne cessent de nous abreuver. Je parle du JDD qui a fait sa une sur la liberté d'expression en remise en question avec une photo de Christophe Deloire, le patron de RSF. En fait, ça part de RSF, cette demande. RSF a demandé à l'ARCOM de mieux surveiller ces news. L'ARCOM a dit non. Donc RSF a demandé au Conseil d'État de mettre une petite pichenette derrière la tête de l'ARCOM et de leur dire il faut vraiment respecter de la loi de 1986 en fait, et ne pas contrôler que la pluralité des invités, mais aussi celle des animateurs, des chroniqueurs, etc., etc.
Et qu'a dit le Conseil d'État ?
Le Conseil d'État a dit effectivement.
Il a dit ça. Et l'ARCOM a dit oui, d'accord, on va le faire.
On est en train de réfléchir aux modalités de le faire, et je pense qu'il n'y aura pas de comptage à proprement parler des opinions politiques, des journalistes, des chroniqueurs, des animateurs qui seront invités, mais que ce sera lissé sur 6 mois d'une manière très globale, quoi. Et en gros, j'ai l'impression que ça fait une semaine que la liberté d'expression a été assassinée, qu'on crie à la censure, qu'on crie au macartisme.
Jean Well.
Encore lui, putain. Alors que déjà, ça va concerner toutes les chaînes de télé, pour le coup. Là, on tape sur les doigts de CNews parce que CNews est la principale concernée, mais toutes les chaînes de télé vont du coup être jugées de cette manière-là. Et ensuite, ça s'applique aux chaînes de télé et pas aux médias de presse écrite, parce que les chaînes de télé, l'État leur accorde une chaîne de TNT, en fait. Donc il y a un contrat sous-entendu. Tacite.
Le contrat
tacite,
illicite, exactement. Quand même. Hein, avec l'État, quand même.
Je trouve pas mes mots ce soir, vous avez remarqué, Nicolas, tacite entre l'État et les propriétaires de chaînes pour leur accorder une chaîne en échange d'une pluralité interne. Et donc, en fait...
Mais c'est pas que tacite, hein, c'est expliqué. Hein.
Oui, c'est expliqué.
Et c'est que la télé ou c'est aussi la radio ?
Non, c'est que la télé.
D'accord.
C'est que la télé, parce que la radio et la presse écrite, tu as une pluralité d'opinions, parce que c'est des médias qui sont possédés par des propriétaires privés, quoi. Donc la question ne se pose pas, en fait. Et voilà, moi je suis terrifiée par la machine bolloresque qui s'est mise en route.
Est-ce qu'ils ne l'ont pas très bien pris ?
Non, ils ne l'ont pas très bien pris.
Raconte-nous un
peu. Non. Pascal Pro a reçu Christophe Deloire sur son plateau la semaine dernière. Le pauvre monsieur en a pris plein la gueule. Il avait 4 chroniqueurs autour de lui qui n'étaient pas totalement acquis à sa cause, je pense, malheureusement. Et ça fait une semaine que ça débat de la liberté d'expression est-elle en danger. On remet en question les décisions du Conseil d'État aussi, donc on remet en question la démocratie. Enfin, il se passe des trucs de fou en ce moment. Et ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun discours en face qui est audible. On n'entend que ce discours-là. Sur les réseaux sociaux, on ne voit que ça. Et les médias en face qui essayent de ramener un peu d'équilibre ne sont pas du tout audibles. Donc voilà, c'est mon actu de la semaine.
Alors c'est complètement incroyable, mais tu viens de raconter l'épisode de Rhinocéros de dimanche où on résume un peu tout ça. Enfin non, on résume pas, on fait plus long avec les extraits.
J'ai pas le temps, malheureusement, désolé.
Voilà, et avec une conclusion et tout, quoi.
Qui sort dimanche là,
on le fait sur. Alors je crois.
Incroyable. On va essayer. T'as fait un teaser là.
Ouais.
On va
essayer de trouver un titre un peu pour énerver les fachos. Tu sais, je cherche un truc genre on va enfin censurer ces news. Là, je me dis là, ils vont exploser, ils vont faire.
Vous l'attendiez depuis longtemps, le crossover Sacha Usul, on n'en est pas loin là. On n'en est pas loin du tout.
J'en rêvais.
Ouais. Non, mais on est d'accord. Hein.
Ouais, bah.
Ben, ouais. Et donc, peut-être, on va enfin censurer ces news, cette chaîne de facho. Et je pense que ça va cliquer. Ouais.
Ah, tu mets cette chaîne de facho, t'as une plainte en plus. Pour le coup.
Qu'ils y viennent.
Ça peut être fun, hein.
On va voir.
Pour suivre l'émission judiciaire de Usul, continuez à suivre l'émission. Ok, super, bah merci de nous avoir passé ton coup de gueule, Sacha, et puis de nous avoir aussi un petit peu informé de ce qui se passe, de ce qui se trame. Cette fois-ci, je me tourne vers Malek, parce que pour poursuivre l'actu de la semaine, on va revenir, on n'avait pas d'émission la semaine dernière, donc on va revenir au 12 février, et le 12 février, il s'est passé ça.
Il s'est passé ça.
Ça. Peut-être à force de répéter ça, ça va venir.
Ça arrive. Non, ils me parlent dans l'oreillette, ils envoient, c'est bon, c'est parti. C'est bon.
Rachida. Ah. Oh, tata, Rachida. Je peux vous
On
faire les deux.
On n'a pas le son, mais... Ah, si.
Je suis une ghetto girl.
Oh, waouh.
Oh, le culot.
on a choisi l'extrait où elle dit « Je suis une ghetto girl ». C'est quand même absolument incroyable. Donc ça, c'était dans le DVM Show, qui est sur Twitch, une émission de rap où on a plutôt l'habitude de voir Aya Nakamura, Caris, etc. Mais la semaine dernière, c'était la rappeuse Rachida Dati, donc la ghetto girl. Le DVM a été critiqué, Dati aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, Malek ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ?
Déjà, je veux applaudir en vrai le DVM. Avec Média qui a lancé ça en juin dernier. Parce que c'est vrai qu'on a grandi, pour ceux qui suivent le hip-hop et le rap, on a grandi avec Planète Rap, Skyrock et des radios comme Génération, etc. Mais c'est vrai que sur Twitch, bien que des médias comme Rapplume, etc. avaient tenté de prendre le créneau, personne n'avait réussi à faire quelque chose de très quali. Et Média, avec l'équipe du DVM, donc c'est un collectif, il y a Naskid qui est un compositeur qui est assez connu dans le rap, Blaise, Marquis, bref, ils ont réussi à créer un collectif et à créer quelque chose de très authentique avec cette émission du DVM Show qui a lieu à Aulnay-sous-Bois et à ramener des artistes, dont Aya Nakamura, qui il y a un mois fait un titre en exclu et qui a cartonné. Moi, j'étais très content de voir ce que ça devenait, d'avoir un truc qui était très quali, en même temps très authentique et voilà. Et semaine dernière, alors qu'il y avait une grande émission pour le nouvel album de Taïk, mon artiste préféré, et d'Adju, moi je suis tranquillement devant mon écran quand j'entends Blaise dire « Faites un maximum de bruit pour Rachida Dati !» Alors, là en moi, deux parties. La première partie qui a travaillé pour des politiques pendant 10 ans en me disant « What the fuck ? Bravo l'équipe de Rachida Dati, c'est du génie. Franchement bravo, bravo. » Et de l'autre côté, qui me dit putain, les gars, non. S'il vous plaît, non. Pas ça. Pas ça, pas après tout ce que Rachida a dit et défendu. Donc, tout le monde leur est tombé dessus. Et en vrai, je peux l'entendre. Par contre, je trouve qu'on en fait peut-être un peu trop. Ces gars l'ont dit très clairement. Ils n'avaient pas le recul sur la chose. Ils sont absolument pas politisés. Et en vrai, ça doit nous appeler, nous, à faire un devoir encore, à les inviter à voir Backseat, par exemple. Média le sait.
Quand tu dis tout le monde leur est tombé dessus, c'est qui tout le monde ?
Alors, t'as une partie de la gauche et la gauche de la gauche, parce que l'extrême gauche n'existe pas pour moi, qui leur est tombé dessus. Et t'as aussi des médias, des acteurs du milieu hip-hop qui, eux, ont plus ou moins une conscience politique, qui leur ont fait un maxi procès. Eux s'en sont expliqués au début en disant oui, mais nous, on est des mecs d'Aulnay et il y a la ministre de la Culture qui veut venir. Et ben nous, on est archi fiers. Est-ce que je peux grave comprendre, parce que moi, le mec d'Argenteuil qui reçoit un président de la République, quoi qu'on en pense sur mon podcast, j'étais aussi archi fier. Mais je trouve que le procès dure un peu trop. Et après, quelques jours après, ils ont fait un communiqué, Média a fait un communiqué avec ces mots, en disant, voilà, on nous a appelé quelques heures auparavant en disant, la ministre de la Culture vient, est-ce qu'on pouvait refuser sa venue ? Non, on s'est pas senti de la refuser, et puis voilà. Et excuse-moi, ce qui est très drôle à observer, donc Rachida Dati leur a dit pendant l'émission, vous venez quand vous voulez ou quand vous voulez au ministère de la Culture. Blaise leur a dit, oui, mais nous, on fait du bruit. Et elle a dit, oui, mais le ministère de la Culture, c'est le ministère du bruit. OK, on note. Et surtout, ce qui était très drôle, c'était de la voir se mettre en avant quand il y avait des petites chanteuses qui chantaient des chansons très sympathiques, quand Jay Brony a chanté Ghetto Boy, c'est pour ça, c'est là où elle a dit qu'elle était une ghetto girl. Et quand il y avait du rap un peu plus hardcore, on la voyait se cacher derrière, placer des gars devant elle pour pas qu'on la voie. Ça, c'était archi drôle.
Mais d'ailleurs, le RN l'a attaqué là-dessus, directement.
C'est
vrai.
Ça a été aussi attaqué. Alors, cette fois-ci, c'est Rachida Dati
qui se fait attaquer aussi par le RN, qui lui dit, vous allez dans ces trucs où on critique la police, en gros, on fait de la musique
subversive. Et on vend de la drogue.
Et on fait l'apologie du deal.
Mais d'ailleurs, les mecs, ils portent plainte contre Jordan Bardella
pour diffamation.
Pour diffamation,
exactement. Et Éric Zemmour en a profité pour demander un ministère des beaux-arts et de la culture française.
Qui a demandé ça,
pardon ? Éric Zemmour. C'est vrai que le rap ne fait pas partie de la culture française. MC Solar, IAM, tout ça, bon...
Ouais. Voilà. Bon, après, qu'il se soit fait, il y a le ministre de la Culture qui arrive, tu fais bah oui, et puis en plus, c'est une affaire qu'il faut qu'elle tourne aussi, donc tu te dis ça peut être pas mal pour les subventions. Si t'es très pragmatique, tu te dis pourquoi pas. Puis après, j'ai envie de dire, on a vu des streamers là, faire des photos avec Macron aussi. Hein ? Ça arrive vite de se faire bolos, en fait, par des, comme tu disais, des gens qui sont là pour récupérer, qui sont bien meilleurs que toi en com, qui ont un plan derrière la tête, qui savent ce qu'ils font, eux.
Moi, je me suis fait bolos par Alexis Corbière à une.
Ah oui. Oula. Qu'est-ce qui se passe?
Attends. Révélation.
Réunion des journalistes du JDD, des ex-journalistes du JDD à côté de l'Assemblée nationale pour un petit mouvement de 50 personnes.
Il t'a récupéré.
Il m'a récupéré pour une photo. Il m'a placé à côté de lui.
Magnifique.
Il a dit on trop fait fort. La photo, on bombarde et tout. La photo s'est retrouvée en tête de tous les papiers. J'avais trop le seum. C'est trop le seum. Il y a une photo de moi avec Alexis Corbière et une pancarte.
Et voilà, chacun ses casseroles. Hein.
T'as porté plainte ?
Bah non, malheureusement.
Mais c'est quand même chelou parce que c'est quand même le moment aussi où on parle des élites qui sont déconnectées du populaire. Et là, justement, de voir la ministre de la Culture qui fait ce move, sans doute peut-être un peu intéressée pour des questions de communication. Ah oui. Mais c'est quand même pas mal. Donc c'est terrible que finalement il se soit pris les feux dans tous les sens.
J'ai envie de te dire, je suis d'accord, on pourrait lui faire le reproche de ne pas y aller, on lui fait le reproche d'y aller. On verra par les actes si vraiment elle est là à pousser ce genre d'initiative de mecs qui veulent lancer leur propre média à la base dans une pièce avec une cam et un ordi. Ok, on verra par les actes, mais ça n'effacera pas ce qu'elle a dit sur Naël l'année dernière, ce qu'elle a dit en 2005 au moment de l'affaire Ziad Ebouna. Voilà, donc ça ne l'effacera pas. Moi, ce qui me dérange là, c'est ce procès qu'on fait sur ces mecs qui en réalité étaient un peu naïfs. Et voilà, on peut pas leur en vouloir. Je pense qu'ils s'y reprendront à deux fois la prochaine
fois. On peut pas leur en vouloir, mais on peut aussi comprendre l'agacement de gens qui ont encore en tête les années Sarkozy, le Karcher, machin, qui regardent ça, qui fait mais putain les gars, vous êtes en train de vous faire baiser, mais un peu de plomb dans la tête. Vous voyez bien l'époque dans laquelle on vit, vous voyez bien l'époque de merde, vous voyez bien qui c'est, Rachida Dati. Non, vous savez même pas, mais c'est grave de pas savoir ça à votre grand âge. Vous êtes des adultes. Je comprends cette réaction là aussi. Quoi.
Mais parce qu'il y a un gros conflit de génération.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que la génération, alors je suis pas expert sur le sujet, mais est-ce que la génération de rappeurs actuels est pas moins politisée,
totalement.
Voire pas du tout que leurs ancêtres, mais leurs grands-parents, Ayam, tout ça.
Leurs grands-parents, Ayam.
Non, mais c'est deux générations avant.
Je pense que les fans d'Ayam commencent à être grands-parents. Hein. C'est possible, il faut le savoir.
Je renvoie vers de là du très bon contenu de Rap Plume sur YouTube, sur l'extrême droite et le rap. C'est vrai qu'aujourd'hui, la génération de rappeurs actuels, je sais plus qui disait là sur Twitter, c'est vrai que nous j'ai 28 ans, je suis pas très vieux, mais on a grandi avec des rappeurs, avec Ayam, moi c'était les psychiatres,
Kenza Farah,
voilà,
tout ça,
on a grandi avec des gens qui nous expliquaient qui était qui et on savait qui était le mal, d'accord, et j'avoue que aujourd'hui pour les plus jeunes c'est plus vraiment le cas, et en vrai à nous de faire le travail pour les accompagner parce que là leur faire un procès ça n'a pas vraiment grand intérêt en in fine, quoi.
À l'époque, c'était les mecs de droite qui faisaient des procès aux rappeurs. Ça, c'était la bonne époque.
Oui, demande à Youssoupha.
Voilà. Sniper aussi.
Ouais. SNIPER. Je suis du Val d'Oise, désolé, je suis très bien.
Mais du coup, ça nous permet de parler un petit peu de Rachida Dati et de son arrivée au ministère de la Culture. Elle fait un sans faute, non?
Non. Je faisais Anna Mouglalis qui réagit. Non.
Tu le fais extrêmement bien.
Voilà.
Mais t'as bien fait de nous dire ce que tu fais.
Oui, je me suis dit, faut que je l'explique. Ça fait trois fois que je fais non, personne capte, donc je vais l'expliquer.
Mais une fois que c'est expliqué, c'était
t'avais compris, là.
Oui, une fois que c'est expliqué, c'était évident. Mais
c'est pas vrai.
Ta ressemblance avec Anna Mouglalis, c'est pas.
Ouais, elle est pas
c'est évident.
Moins bien que Nicolas Sarkozy. À retravailler un petit peu.
C'est vrai.
Qu'est-ce qu'on en pense de Rachida?
Fatigue. Fatigue, Rachida Dati.
Je la trouve un peu plus consensuelle que sa prédécesseur.
Pas très difficile non plus.
Voilà. Après, Rachida Dati a été donné des interviews au grand mal, à Bolloré, à tous les médias de Bolloré pour le coup. Et j'ai l'impression qu'il y a un double discours, c'est-à-dire que dans les médias de Bolloré, donc le JDD, Europe 1 et CNews, on parle de wokisme, de cancel culture, ce qu'elle ne fait pas dans les autres médias un peu plus traditionnels. Elle a aussi eu des propos sur le service public qui doit pas.
Toi aussi, t'as regardé ça. Ça va nous intéresser particulièrement. Elle a dans les cartons. On lui a rien demandé. Hein. Personne lui avait rien demandé. Macron lui a pas demandé. Non. Mais elle a dit peut-être une petite réforme là de l'audiovisuel public pour faire une BBC à la française. On va peut-être mélanger la radio, la télé. Chouchou, tu fais. Ça fait des économies d'échelle.
Ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas que son idée.
Oui, non,
mais elle l'a foutu sur la table.
Okay.
Voilà. Les coupes budgétaires là.
Ça sera l'occasion de la recevoir.
Mais moi, ce qui m'intéresse et ce que je trouve étonnant, c'est que le monde de la culture monte au créneau quand même de manière assez régulière quand il se passe quand il y a des propos comme ça qui sont tenus dans les médias, on a des réactions à droite, à gauche. Là, j'ai l'impression qu'il y en a pas énormément, quoi. Donc, est-ce que c'est Rachida Dati qui passe mieux? Est-ce que elle a aussi un discours sur il faut plus de diversité, plus de mixité sociale dans la culture? Est-ce que ça égalise pas aussi entre guillemets? Est-ce que ça lisse pas un peu tout le contenu Rachida Dati? J'arrive pas à me positionner. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'elle est plus consensuelle, c'est qu'il y a moins de de voix, d'éclat contre ce qu'elle dit, pour le coup.
Je trouve ça un crachat au monde de la culture de leur avoir nommé Rachida Dati, qui s'en bat les couilles, qui aurait voulu être ailleurs. Non, mais vraiment, hein. Vraiment.
Mais je pense que les gens ont intégré que Rachida Dati, son objectif c'était la mairie de Paris pour 2026, dans un an elle serait plus là et que en deux ans elle aurait pas le temps de faire beaucoup de choses parce qu'il y a pas d'argent et qu'elle aura pas la latitude pour faire tout ce qu'elle veut.
Et est-ce que c'est que la mairie de Paris son objectif à Rachida
Dati? Oui, c'est que la mairie de Paris.
Parce qu'il y a une autre élection l'année d'après.
Oui, mais elle en fait une affaire. C'est une affaire d'ego là, la mairie de Paris.
Ça se elle a envie de continuer à harceler Anne Hidalgo en conseil municipal. Ça lui manque de la harceler. Il lui faut ça pour se sentir vivre.
Elle veut défoncer Hidalgo, quoi. Qui a saccagé Paris pendant des années.
Sera-t-elle contre...
Qui a cassé la Tour Eiffel, vous avez vu.
Sera-t-elle face à Anne Hidalgo d'ailleurs, c'est la question. Hein, parce qu'on ne sait pas si vraiment Anne Hidalgo y retourne en 2026.
Ben oui, voilà. C'est pour ça qu'on peut se poser la question de 2027, je sais pas, moi je posais ça là. Ouais, c'est comme ça, on pourra dire Brexit.
Pour Hidalgo, au moins c'est réglé, la question de la présidentielle.
Oui, ça je crois que pour tout le monde,
c'est réglé pour de bon.
C'est clair. Voilà.
Je te trouvais un peu dur, elle a fait un score encourageant la dernière fois. Oui.
Tu sais qu'elle peut pas faire pire. J'allais dire, ouais, on sait pas.
Non.
Bon, transition, on va changer de sujet.
Oula.
Ouais, non, c'est moins rigolo parce qu'il y a une actualité assez grave dont j'aimerais bien qu'on parle aussi, c'est la guerre à Gaza, donc oui, un petit peu moins rigolo, qui se poursuit malgré les appels de la communauté internationale. Donc pour recontextualiser, début février, là le 4, il y a un groupe de médecins français de l'ONG PALMD qui sont rentrés de Gaza et qui ont été invités à témoigner à l'Assemblée nationale. Ils ont été auditionnés par des parlementaires. Et voilà ce qu'il disait.
C'est pareil. Effectivement, il y a un génocide qui est en cours. Tout le monde le sait. Voilà. Et c'est ce qui est choquant, en fait, c'est ça. C'est qu'on a l'impression que ça bouge, mais pas... Alors, je vous remercie, vous nous avez reçus ici et que vous faites ce que vous pouvez, quoi, enfin, pour faire entendre la voix, en fait, de ces gens. Et qui ne demandent que ça, en fait, parce que la plupart, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce... D'accord, OK, il y a des problèmes, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? C'est énorme, c'est disproportionné. Merci.
Donc voilà, là c'était le docteur Bouchacour qui était le 4 février à l'Assemblée nationale et qui dit le mot.
Génocide.
Génocide, autour duquel on a beaucoup tourné. Il a été également employé par Raphaël Pitti, qui est un médecin de guerre, qui forme les médecins de guerre. Il a formé des médecins en Syrie, en Ukraine. Et il était dans la même délégation. Il a passé 15 jours à Rafah, est revenu. Et lui a parlé effectivement de génocide, de ghetto. Il a même été jusqu'à utiliser le terme camp de concentration. Donc les yeux du monde sont tournés vers Rafah pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Rafah, normalement, c'est une ville de quoi ? 240 000 habitants au sud de Gaza.
Sud de Gaza. Et là, a priori, il y aurait plus d'1,4 million de Gazaouis qui ont été déplacés par l'armée israélienne. Enfin, Israël a demandé aux Gazaouis de descendre à Rafah pour, en attendant les opérations dans le nord.
Et... depuis le début... on est là, on fait les étonner. Mmh. Depuis le début, ils ont dit, vous partez du nord, allez vers le sud. Et on sait très bien que l'idée, c'est que, au bout d'un moment, c'est finito. C'est, allez, on va les donner à l'Égypte, on va les pousser au bord du truc. Mais depuis le début, c'est le plan. Depuis le début, on le sait. Certains le disent, d'autres le disent pas, dans la société civile, dans les ministères, etc. Mais, on fait tous semblant que, non. Au début, alors c'était Israël va faire ça dans le respect des règles évidemment du droit humanitaire puisque c'est une grande démocratie comme nous, donc il y a pas de raison de douter a priori. Mais non, on sait que c'est ça le projet. Donc voilà où on en est. On arrive, ils sont massés près de Rafah et puis même là ça va pas non plus. L'aide humanitaire coupée. Enfin, voilà, je sais plus ce que tu voulais dire où parce que oui là si on veut s'énerver aussi ça peut être sympa. Mais...
Non, est-ce que c'est une nouvelle étape qui est franchie ou comme tu le dis, effectivement, c'est quelque chose qui était là depuis le départ? Quelle est la position de la France?
Alors, nous, j'ai vu que là, il y a les députés qui ont interpellé un petit peu le gouvernement en mode, mais on leur vend encore. Vous avez admis qu'il y avait un risque génocidaire. Enfin, la CIG a admis qu'il y avait un risque génocidaire. La position de la France, c'est quand même, ça va un peu loin, cette histoire. Très mesurée, quand même, en ce moment, la position de la France. Et donc, les députés, je crois que c'est Fabien Gay pour le PCF et je sais plus qui c'était aussi pour les Insoumis qui ont interpellé en disant, vous savez qu'il y a un risque, mais vous vendez des armes. Vous vendez des armes et des composants.
Et Emilio nous en parlera tout à l'heure probablement, mais dans son interview à l'Humanité, Emmanuel Macron se pose la question de savoir si Israël est une démocratie vu où on en est.
Parce qu'on reçoit Emilio Mel juste après, mais non, pas du tout, mais comme ça on en profite pour le dire. Journaliste politique à l'UMA qui va nous parler de cette interview où notamment il y avait un sujet avec Emmanuel Macron qui a parlé de point de rupture. Sur ce sujet.
Point de rupture, après avoir dit, et on ne l'oubliera pas, et les livres d'histoire ne l'oublieront pas non plus, après avoir parlé dès le premier jour d'un soutien inconditionnel à l'État d'Israël, au gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, et depuis le début, je dis not in my name, j'ai envie de dire j'ai honte de la position de la France, mais en même temps, j'ai envie de dire c'est pas la mienne, c'est tellement pas la mienne. C'est très difficile de documenter en plus ce qui se passe à Gaza. Élise Lucet le disait là dans son petit format sur le net, et elle l'a dit aussi chez McFly et Carlito, comme quoi. C'est très difficile parce que les journalistes n'ont pas accès. Il y a une journaliste de CNN, je crois, qui a pu rentrer que quelques heures dans Gaza. Très difficile de savoir ce qui s'y passe, à part les images sur place et des médecins qui sont sur place et des humanitaires qui sont sur place. On nous a alerté sur un risque génocidaire. Je pense que il y a un génocide sous nos yeux et que le monde est en train de fermer les yeux. Jusqu'à quand? On est juste en train de se dire très tranquillement que voilà, dans une prison à ciel ouvert, parce que c'est ce qu'est Gaza, eh ben, il y a une autre prison qui est encore plus petite qui est Rafah, et qu'aujourd'hui, le but de Netanyahou et de son armée, c'est d'éliminer tous ces civils-là.
C'est très difficile de savoir ce qui se passe, et en même temps, non, c'est très facile aussi.
C'est vrai.
Sur les réseaux sociaux, il faut voir ce que postent les soldats. Qui sont en pleine kiffance. Alors ça sourit un max, ça se serre dans les maisons.
Je pense que ça contribue à la fin de l'impunité qu'on mettait autour d'Israël. Pour le coup, tous les soldats qui ont été, qui se sont pris en photo en train de poser avec des bijoux, des trucs, enfin tout ce qu'ils pouvaient voler et tout.
Une nuisette, il y a pas longtemps.
Ouais, la nuisette rouge. Je pense
des vélos d'enfants.
Commence à comprendre.
Précisément, est-ce qu'Israël commence pas à être de plus en plus isolé? Parce que là, il y a eu un vote à l'ONU à la demande de l'Algérie. Donc, 15 votants, 13 votent pour le cessez-le-feu, un seul vote contre, mais c'est un veto puisque ce sont les États-Unis.
C'est les États-Unis.
Et une abstention, même l'Angleterre qui maintenant se pose aussi la question de est-ce qu'on continue à vendre des armes à Israël?
Mais qu'est-ce qui va arrêter Israël de toute façon?
Les États-Unis pourraient.
Précisément, parce que là, il y a une espèce... Oui,
les États-Unis pourraient, ils arrêteraient de leur envoyer des armes, c'est bon. Et après, par contre, je veux dire, la fin de la guerre et tout, les États-Unis pourraient, ils le font pas. Bon, parce que tu dis, ils sont isolés, mais depuis le début, ils sont isolés, en fait. Depuis le début, s'il n'y a pas les États-Unis, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font.
Ouais, mais là, il y avait l'impression qu'il y avait une sorte de point de rupture, justement, qui était...
Bah, la bataille de l'opinion publique à l'échelle mondiale, elle est perdue.
Je vois quand même une évolution quand même de la parole française, à coup de communiqué du Quai d'Orsay, donc c'est vraiment rien de fou. Mais on voit déjà qu'il y a une évolution depuis le mois d'octobre, mais ok, il y a Macron qui nous parle de point de rupture. À chaque bombardement sur des civils, on a un communiqué en disant « Bon, là, ça y est, c'est la dernière fois, là, on n'accepte plus. D'accord, c'est fini. » Jusqu'à quand? C'est-à-dire que jusqu'à quand on va continuer de compter les morts à la fin et de dire qu'on a laissé faire ça? Je l'ai dit 20 fois sur ce plateau, mais tout est une question de courage aussi en politique. Mais là, on parle même pas en réalité de politique. On parle aussi de vie humaine. À quel moment Emmanuel Macron prend ses balls et va voir Biden en lui disant, mon ref, on fait quoi, en fait?
Il y a un com qui dit, donc, on légitimise les attaques du 7 octobre, du coup, in fine. Toujours pas. Pas du tout. C'est toujours
merci
un attentat.
De le relever. Merci.
Je veux dire, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce point. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On a le droit de pointer du doigt, enfin pas de pointer du doigt, mais de dénoncer un attentat commis par le Hamas le 7 octobre et de dénoncer d'un autre côté ce que fait Israël depuis 3 mois maintenant. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Arrêtons de vouloir tout le temps nous faire prendre des positions. Je voyais un com tout à l'heure qui me disait Sacha, on attend ton avis. Bah non, désolé, j'ai le droit de dénoncer le Hamas comme j'ai le droit de dénoncer la politique d'Israël. Il y a pas forcément d'avis à avoir. Laissez-nous tranquille un peu. Donc voilà.
Et là, vous avez vu la
position majoritaire. On est très nombreux en réalité dans cette position là.
Est-ce que vous avez vu l'histoire de l'Eurovision là?
Oui.
Oui.
Ouais, parce que donc Israël participe à l'Eurovision depuis des années, mais là cette fois-ci c'est les paroles de la chanson qui posent problème. qui s'appelle « Pluie d'octobre », qui très subtilement fait référence, puisque voilà, le 7 octobre, c'est le point de départ et le point d'arrivée de tout. Tous les discours ramènent au 7 octobre, ça permet de justifier tout le reste derrière. Mais la chanson va faire ça, en fait. L'idée, c'est une chanson qui va, et donc à l'Eurovision, alors même que se posait la question de la participation d'Israël, parce qu'on avait suspendu les Russes quand ils avaient attaqué l'Ukraine. Donc bon, il y a des questions de politique, machin. Et dans les règles de l'Eurovision, c'est-à-dire que c'est pas à la gueule du client, c'est que dans les règles de l'Eurovision, il y a marqué que c'est pas censé être une tribune politique.
Tribune politique, ouais.
Voilà, bon. Et bah, eux l'ont pris en mode, c'est un scandale, nous, la délégation israélienne dit non, on ne nous fera pas taire. Ça devient compliqué, hein. Je sais pas comment ça se passait, l'Eurovision, mais l'Eurovision, c'est très politique aussi.
C'est toujours très politique, l'Eurovision. Hein.
Ça l'a toujours été, absolument. Mais alors, aussi, il y a le sujet de la couverture médiatique de ce sujet.
On parce a fait que, un rhinocéros dessus.
Apparemment, alors justement, je le sais en novembre.
Eh oui,
exactement. Il était très bien d'ailleurs.
Et donc, vous pouvez tous retourner voir ce rhinocéros. Mais précisément, là, ce qui était intéressant, c'était aussi de se dire que depuis, c'est les chiffres de arrêt sur image qui a comptabilisé les chiffres des JT de 13h et de 20h de TF1 et France 2 depuis le 4 février, donc c'était entre le 4 et le 15 février, et il n'y avait que le 20h de France 2 qui avait parlé des victimes à Gaza pendant quelques minutes. And that's it.
Oui. Non, mais c'est
vrai. Sans nous redire ce que tu nous as sans doute déjà dit et alerté sur Rhinocéros, qu'est-ce que.
Oui, bah ça peut étonner ici. Oui, alors des trucs que j'aurais pas dit dans Rhinocéros, mais qu'on a vu aussi, je l'ai dit en fait, je crois.
Non,
mais...
Et puis j'ai passé 3 mois entre Rhinocéros et maintenant quand même.
Oui.
C'est des choses, hein.
Mais ça a été un moment dans les rédactions, ça a été quelque chose. Toi qui es journaliste aussi, tu sais qu'il y a eu des tensions. Moi j'ai entendu des trucs qu'on n'a pas pu dire aussi dans l'épisode parce que voilà. Mais y a, pour les journalistes, bon, on va le dire comme ça, pour les journalistes racisés, à un moment, dans les rédactions, c'était le soupçon, c'était vous n'en parlez pas, c'était oulala. Donc c'est-à-dire que ça a réveillé ce truc-là, un moment raciste, y compris à l'intérieur même des rédactions. Et or, les directions des rédactions, des grandes rédactions françaises, elles ont parfois aussi ce biais-là, qui fait que on va le retrouver aussi dans le traitement derrière. Et voilà, et ça s'est vu dans la suite, quoi.
Je ne te parle même pas. Je vais pas citer les noms des gars, mais je ne te parle même pas de octobre-novembre pour des journalistes de la rédaction de BFM TV, quand le traitement de ce qui se passait à Gaza a été complètement délégué
sous-traité à
I24, qui fait partie du même groupe avec un regard totalement biaisé. Ouais. Je te parle même pas de ce qu'ont ressenti les journalistes de la rédaction de BFM TV et de ce qu'on leur a apporté d'ailleurs comme réponse à la direction quand il y a eu des réunions. De crise.
C'est assez partagé à BFM pour le coup. Hein. Moi, des retours que j'en ai eus, ils sont tous extrêmement gênés par le traitement de cette guerre en interne. Tous les journalistes de BFM ne sont pas pourris.
Mais toutes les rédactions ont été traversées de luttes, de problèmes, de doutes, de malaise, hein, énorme malaise. Quoi. Par contre, les directions étaient plutôt dans le même sens en général. Ce qui fait que là, il y a des gens, ça se trouve, ils nous écoutent et ils se disent « mais c'est la première fois que j'entends un plateau ». Où des gens en parlent de cette manière-là, on va dire. Parce que sur les autres plateaux, dans les grands médias, c'est beaucoup plus difficile, parce que, c'est compliqué, les rédactions, on va dire.
Et c'est la raison pour laquelle Backseat existe, et c'est la raison pour laquelle, merci Jean, de t'être battu pour ce projet. On continue ? Autre sujet d'actu cette semaine et qui est aussi lié puisque il a été traité dans le journal L'Humanité. Il y a eu interview d'Emmanuel Macron dans l'UMA. C'était au sujet principalement au départ de la panthéonisation de Missak et Emile Manouchian, mais ils ont traité de plein d'autres sujets. Tiens, tu peux le regarder. Et c'est pour cela que l'on reçoit l'invité de l'actu qui est Emilio Mélé, désolé, journaliste politique à l'UMA.
Salut Backseat.
Salut Emilio, c'est cool de te revoir.
Bah oui, ça fait plaisir, mais il manque Jean-Luc Mélenchon et le public chaud de la fête de l'UMA quand même.
Attends, le public, il est pas chaud ?
Bah pas assez.
Faut pas provoquer comme ça, ça va. Donc, en 120 ans d'histoire, l'UMA n'avait jamais réalisé d'entretien avec un président de la République en exercice. Donc, ce qui s'est passé lundi, c'est historique. Donc, maintenant, toi, t'interviews les présidents de la République. Donc, est-ce qu'on doit te vouvoyer, faire des révérences, tout ça ? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ?
Moi, je suis déçu, j'avais pas de loge déjà en arrivant. Il n'y avait pas de personne pour me maquiller, pour...
C'est mieux que de se faire engueuler par Mélenchon ou pas? Au global.
C'est différent. Il est moins éruptif que Jean-Luc.
Pourquoi qu'on n'interviewait pas les présidents de la République avant et pourquoi on le fait maintenant?
Pourquoi on le fait maintenant? Parce qu'il y a un événement particulier. C'est la première fois qu'un communiste étranger résistant, en l'occurrence Missak Manouchian, entre au Panthéon. Et sans cet événement, sans cette cérémonie, jamais on aurait interviewé Emmanuel Macron. Il a réparé, même si c'est un président de droite, une injustice de plus de 80 ans. Et c'est la seule et unique raison pour laquelle on a décidé de l'interviewer. C'est aussi parce que tout ça, ça s'inscrit dans un contexte de la loi immigration votée il y a 2 mois avec les voix de l'extrême droite et avec une partie des idées de l'extrême droite. Et en fait, pour nous, la personne de Manouchian et ses combats incarne toutes les contradictions d'Emmanuel Macron. Et donc, en fait, on a voulu le mettre face à ces contradictions.
Alors justement, avant qu'on parle un petit peu plus de la panthéonisation de Manouchian, comment est-ce qu'on se prépare à une interview comme ça? Vous étiez 4 journalistes, me semble-t-il, à l'interviewer. En plus, c'est une interview particulière, parce que c'est une interview de presse écrite. Donc, vous avez peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous avez plus de temps? Est-ce que c'est relu? Est-ce que vous êtes complètement libre? On veut un peu savoir les coulisses.
Alors, entre le moment où on a demandé à l'Élysée et l'interview, il s'est passé 3 semaines. On a su une semaine avant à peu près que Emmanuel Macron avait accepté la proposition qu'on lui avait faite. À partir de ce moment-là, on s'est mis à bosser, on s'est mis à 4, on a vécu dans notre bulle pendant une semaine à préparer les questions, les ciseler pour être sûr de ne pas faire de conneries parce que l'enjeu était énorme pour nous.
Et les ciseler parce que vous êtes un journal d'opinion qui n'a pas exactement les mêmes opinions. À combien de pourcents? Je crois que... Genre 90.
Ouais, 90. Ouais. Ouais, j'aurais dit qu'on a 10% d'accord et 90% de désaccord. Ouais. Okay. Donc en fait, l'Élysée, oui, a relu l'entretien, ça a été dealé dès le départ, mais ils n'ont quasiment rien bougé. C'était le deal. De toute façon, s'ils avaient tout caviardé, on aurait fait comme Society, on aurait pris l'entretien, on l'aurait mis à la poubelle. C'était hors de question qu'il change de toute façon la vivacité de l'échange qu'on a eu.
Moi, j'ai une question. Emmanuel Macron est une anguille. On sait bien que quand il parle à Valeurs Actuelles, il va pas dire la même chose que quand il va parler à l'UMA. Voilà, on sait qu'il aime faire plaisir à la personne à qui il parle, la regarder dans les yeux, la charmer, etc. Bon, on peut se douter que voilà. Qu'est-ce qui vous a surpris ou vous a dit tiens? Je pensais pas qu'il serait allé jusque-là. Même si la parole de Macron vaut ce qu'elle vaut. C'est-à-dire, il pourra dire autre chose le lendemain. Mais qu'est-ce qui vous a surpris comme réponse, comme manière d'un truc que vous attendiez pas?
De toute façon, nous, on est venus avec nos questions. Lui, il est venu avec ses réponses, comme dirait l'autre.
L'autre,
on s'attendait
Nicolas
pas.
Sarkozy.
On s'attendait pas du tout à ce qu'ils nous disent que c'est un communiste. Par contre, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il se repeint totalement en homme de gauche, quasiment pendant la moitié de l'entretien. Il nous explique qu'il a mené la politique la plus à gauche de ces 30 dernières années. 40, enfin, il remonte même jusqu'à Mitterrand. Le SMIC à 1400 euros, c'est fait. Il nous dit « Ah bon ?» Et voilà, c'est plutôt ça. Mais après, il nous a engueulé aussi. Hein. On l'a mis face à sa contradiction et il a riposté. C'était le jeu. Il nous a dit qu'on était des gens dangereux.
Sur quel sujet vous engueulez, ouais ?
Il nous a engueulé parce qu'il pense qu'on fait un trait d'égalité entre lui et l'extrême droite. Ce qui n'est pas vrai. Ça fait par contre des années, 7 ans, qu'on écrit qu'il pave la voie à l'extrême droite, qu'il prépare son arrivée au pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il mène la même politique, même si parfois il y a des ponts. Et en gros, voilà, c'est ça. Il nous reprochait d'avoir dit ça. Mais pour lui, on met un trait d'égalité, ce qu'il faut. À ce moment-là, il nous dit qu'on est dangereux.
Malek.
Merci pour l'entretien, parce qu'en vrai, ça faisait du bien d'entendre, enfin, de lire ces questions-là posées à Macron.
Merci.
Tu penses qu'il a accepté pour quelle raison?
Parce que c'est un président qui est obsédé par sa trace dans l'histoire.
Ouais.
Déjà, c'est le premier président de la République à s'exprimer dans le journal de Jean Jaurès. Mmh. Je pense que rien que ça, ça a dû titiller son ego.
Il était content que vous lui proposiez, parce que sinon c'était Pif Gadget.
Il a déjà fait dans Pif Gadget.
I know.
Et ensuite, il aime bien se mettre en scène en montrant, et on l'a vu des offs de l'Élysée déjà en amont, de l'entretien, ils avaient déjà accepté, donc nous on a un peu observé ce que disait l'Élysée, et aussi après, nous on parle de tout le monde, on parle à tout le monde de CNews à l'Humanité, comme si c'était la même chose que le média de Bolloré est un média indépendant, une presse indépendante qu'est l'Humanité. Voilà, et donc je pense qu'il y a de ça, il y a cette mise en scène de lui-même, et puis après il ne faut pas oublier que c'était un candidat, c'est presque la tête de liste Renaissance aux Européennes, donc...
Il est en campagne.
Dans le chat, il se pose la question justement de faire sa com', il aime se mettre en scène, vous l'avez aidé à se mettre en scène, comment vous avez résolu cette question chez vous?
Bah, De toute façon, c'est ce que je disais. Nous, on est venu avec nos questions, lui avec ses réponses. Donc, de toute façon, on savait que lui aussi, forcément, avait un intérêt à nous parler. L'enjeu, par contre, c'était de casser son récit systématiquement. C'est-à-dire de ne pas le laisser dérouler, de montrer, nous, qu'on n'était pas dupes de ce qu'il nous racontait. Et je pense qu'on a réussi à le faire, notamment sur la panthéonisation de Manouchian. Lui qui veut en faire un Français de préférence, ici Aragon, ce qui est, Aragon dit l'inverse hein, dans son poème Strophe pour se souvenir, et notamment via la présence de Marine Le Pen. En fait, si on ne révèle pas que Marine Le Pen a été invitée selon le protocole et qu'elle risque d'être là, en fait, ça passe crème.
Bah justement, on va y venir.
Une petite question avant. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas mis dans l'interview que tu regrettes ?
Non.
Non ?
Non, parce que c'est vrai qu'on a dû faire un choix. Au total, il y a 28 000 signes d'entretien pour 1h15 d'interview. Au total, ça fait 40 questions. C'est énorme pour entretien, 40 questions. Et on en a attrapé, je pense, 20-25, parce qu'il faut faire des choix. On ne peut pas non plus consacrer tout le journal à Emmanuel Macron. on a déjà consacré 7 pages, c'est énorme. Et donc non, a priori, j'ai rien que je regrette. On a vraiment essayé de garder justement tous les points d'achoppement, parce qu'aussi, pendant 1h15, tu te répètes beaucoup. Hein.
Oui.
Mais alors, il est comment, en vrai?
Mais il est courtois.
Il est sympa, ouais.
Courtois?
Je dirais courtois.
Courtois, ouais.
Et pas Thibaut, petite vanne footballistique, désolé.
Yes, on l'a.
Stéphane Courtois. Merci. Toi, tu connais plus.
Ah, je préfère le gardien du Real Madrid.
Ok, alors moi, j'ai pas les restes. Je vous propose qu'on enchaîne. Voilà. Non, mais donc, du coup, le sujet de l'interview au départ, enfin, en tout cas, le prétexte, c'était la panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian, résistants arméniens qui sont rentrés au Panthéon. Tu l'as dit tout à l'heure, c'était le premier communiste à faire son entrée dans une nécropole républicaine. Justement, j'aimerais qu'on détaille un petit peu cette question de français de préférence là, que tu nous as un petit peu expliqué. Le sujet Manouchian avec le président, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Pas que avec le président, juste la panthéonisation.
Alors en fait, ça fait des années, 10 ans, que la première demande d'entrée au Panthéon de Manouchian a été faite. À l'époque, c'était un socialiste, Jean-Marc Germain, qui l'avait proposé. Et François Hollande avait décidé de ne pas retenir Missak Manouchian quand il a panthéonisé 4 autres résistants, qui étaient Jean Zay, Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonioze et Germaine Tillion.
Donc, c'est pourquoi ?
Moi, quand je l'ai eu au téléphone, François Hollande m'explique que c'est pour une raison de parité. C'est parce qu'il faisait rentrer 2 hommes, 2 femmes.
Ah oui.
Et donc, en fait, fallait pas faire rentrer 3 hommes, 2 femmes, comme s'il n'y avait pas aussi des résistantes communistes comme Marie-Claude Varenne-Couturier qui pouvaient espérer y rentrer. Et il me dit, on ne pouvait faire qu'une seule panthéonisation, j'en fais déjà 4, c'est beaucoup. Et de toute façon, et c'est là l'ironie du truc, si j'avais fait un deuxième mandat, promis, j'aurais mis Manouchian. Bon, en réalité, c'est aussi un jeu politique, c'est une décision politique. Ne pas faire entrer la résistance communiste au Panthéon quand on fait rentrer et les gaullistes et les résistants de centre-gauche, c'est un message politique qu'on envoie. Et donc, ça fait aussi 10 ans donc, que la gauche radicale qui voit dans les qui se voit comme les héritiers des résistants communistes bataille pour le faire rentrer. Et il s'est trouvé que...
Jean-Marc Germain, c'est pas trop la gauche radicale, c'est le...
Non, Jean-Marc Germain, d'accord.
Dan Hidalgo, pour vous donner une idée.
Non, mais en l'occurrence, après, c'était surtout le vice-président du Sénat, Pierre Ouzoulias, le communiste, dont le grand-père, Albert, était en fait le supérieur, le N+2, comme on dit en Macronie, de Missak Manouchian pendant la résistance.
Et c'est lui pas qui, le friend of friend. Donc.
C'est lui qui a, avait d'ailleurs fait renommer par le Conseil de Paris la place du groupe Manouchian dans le 20e arrondissement en 1951. C'est le premier, en fait, qui a, dès la libération, a essayé de faire vivre cette mémoire du groupe Manouchian. Et en fait, c'est Macron qui a tendu l'oreille à ce petit comité qui avait été créé par Jean-Pierre Sakoun, qui est le président d'Unité Laïque, avec Ouzoulias, avec la petite nièce de Manouchian et d'autres. Et il a bien compris qu'il avait un intérêt à y faire rentrer Missak Manouchian.
Et on voit les images. Ça a eu lieu donc hier. Tu y étais ?
Ouais, c'était hyper émouvant. J'avoue que j'ai versé mes petites larmes à partir du moment où le cercueil est arrivé sur l'esplanade du Panthéon avec le chant des partisans jusqu'à ce qu'il rentre dans le Panthéon avec entre-temps la fiche rouge de Léo Ferré repris par Feu Chatterton, j'avoue j'ai pleuré. C'était sublime.
Merci de nous partager ce moment d'émotion, mais c'était aussi un moment, bah, pas que d'émotion, mais un peu de polémique aussi hier.
Oui, on parle de Marine Le Pen, c'est ça ?
Bah ouais, on y va, vas-y.
On y va ?
The floor is yours.
Oui, bah je sais pas, qu'est-ce qu'on dit ?
Non,
moi je l'aime pas trop, moi. Moi je pense que c'est un peu une facho. Mais...
Est-ce qu'on doit forcément donner son avis ou pas ?
Attention, ah, oui. On va porter plainte. Elle va porter plainte, Usul, fais gaffe.
Ouais, je sais, rien dire.
Ses propos n'engagent qu'Usul et pas l'intégralité de l'équipe Backseat et pas Jean Massier en son absence.
Non, en vrai, moi, je me suis posé plein de questions à la suite des différents hommages nationaux qui ont été rendus ces dernières semaines avec le 7 octobre, l'hommage national rendu à Badinter et cette panthéonisation des Manouchians. Et à chaque fois... des gens étaient on leur a dit ne venez pas, vous ne devriez pas venir. On l'a dit à LFI le 7 octobre, on l'a dit à l'extrême droite pour Badinter et on l'a dit à l'extrême droite pour Manouchian. Elle est quand même venue. Ma question c'est c'est des protocoles d'État, donc on doit inviter tout le monde a priori. Non, je t'ai vu, je te vois faire.
Vas-y, fini.
Non, mais c'est une vraie question. Pour moi, c'est un protocole d'État, donc il faut inviter tous les chefs de parti, personnalités entre guillemets. Et du coup, ça me pose la question à qui appartient la mémoire de ces gens, en fait. Enfin,
oui, est-ce que le protocole est supérieur à...
C'est ça. En quoi le protocole est supérieur au choix des familles ? En quoi il y a une vision politique doit empêcher des gens de rendre hommage à d'autres gens. Enfin, c'est ultra touchy comme sujet, je trouve.
Donc, pas trop politiser la politique. Hein. Parce que c'est, évidemment, c'est hyper politique. Il y a la question de l'arc républicain qui sous-tend tous ces trucs-là, là, parce qu'à chaque fois, c'est la même question.
Et surtout, Marine Le Pen, pourquoi elle ne va pas à Badinter ? Elle va au Manouchian. La réponse de Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, à sa présence, m'a vachement étonnée et je l'ai trouvée très grandie sur cette réponse. Il a dit, en gros, je suis ravie qu'elle ait été là. C'était un protocole d'État. Je suis ravie qu'elle ait été là parce qu'elle s'est agenouillée devant la résistance communiste.
Il n'a pas exactement dit. J'étais en face de lui, en fait, à ce moment-là. C'est moi qui le.
Il
nous répond avec Paul Larouturou de LCI. Il nous dit, je suis heureux. En fait,
je suis heureux. Ouais, c'est
j'ai une
Secrète jubilation
de l'avoir plié le genou devant la résistance communiste.
Il parle bien.
Tu voulais ajouter un truc, Emilio.
Ouais, sur le protocole, en fait, en amont de l'entretien, on a essayé de savoir si elle avait été invitée ou pas. Et donc, on a essayé de chercher l'info. Et il se trouve qu'effectivement, il y a un protocole qui est régi par le décret de 1989. C'est Mitterrand qui avait signé ça, qui en fait liste toutes les personnalités qui doivent être invitées. En l'occurrence, c'est pas les chefs de parti, c'est les présidents de groupe. Et comme elle est présidente du groupe RN, elle a été invitée. Donc, l'Élysée se cachait franchement derrière ça. Sauf que, comme si ce n'était pas un sujet politique. Voilà, c'est le protocole. Nous, on peut rien faire. C'est comme ça.
C'est méchant. Nous, on applique la règle. Hein. Alors que oui, c'est...
Mais l'enjeu, c'était justement d'avoir une parole politique aussi de Macron là-dessus. Il a fallu aller lui arracher un petit peu. Hein. Je vais pas vous le cacher. C'était pas spontané de nous dire qu'elle n'avait pas sa place là. Mais il y a un truc. Pardon. Il y a Jordan Bardella, il était là. Jordan Bardella, lui, est chef de parti. J'ai eu confirmation que jeudi dernier, avant la panthéonisation et avant l'entretien, Jordan Bardella n'était pas invité. Donc ça veut dire qu'il en a fait la demande et qu'elle a été acceptée. Donc là, a priori, ils ne peuvent pas se cacher derrière le protocole.
Bah. En même temps, on apprend que Emmanuel Macron et Jordan Bardella, des fois, se passent des petits coups de fil en secret. Donc, bon, rien d'étonnant. Moi, en réalité, si on suit cette ligne...
Comment on apprend ça,
Malek ? Des petites indiscrétions dans les médias, parce que je lis l'UMA, mais pas que. Moi, je suis d'accord avec toi. L'Élysée se cache derrière cette petite version officielle avec le décret. Mais Emmanuel Macron, en tant que président, aurait pu dire « Moi, je l'invite parce que c'est le protocole. » Mais les responsables de la majorité, qui à la tête de Renaissance. C'était pas une séjournée. Putain, j'ai oublié.
Ah non, c'est une journée. Ouais.
Un séjournée aurait pu prendre la parole, quoique il était ministre, mais groupe, je sais pas, qui est président du groupe Renaissance d'ailleurs.
C'est Sylvain Maillard.
Ah oui, Sylvain Maillard. Bah voilà, Sylvain Maillard aurait pu prendre la parole.
Stéphane Séjourné est ministre des
Affaires étrangères. Oui, il est ministre.
Mais c'est lui qui dirige le parti.
Mais oui, toujours à la tête du parti.
Bah voilà, les membres de la majorité, et puis même à droite, en réalité, ils auraient pu prendre la parole en disant, nous, en tout cas, on s'oppose à l'avenue de Marine Le Pen à cette panthéonisation, et ça aurait été une réponse politique, et peut-être que face à l'opposition de tous ces responsables politiques, elle ne serait pas venue, je sais pas.
C'est un signe des temps, hein, c'est un signal faible, quoi. C'est vraiment, on a atteint un degré de confusionnisme total. C'est-à-dire, on voit très bien que là, il y a, on a construit cette république et ses institutions avec les communistes. Les communistes, il y en a qui pourraient rentrer au Panthéon, ne serait-ce pour les institutions qui nous ont laissées aussi.
Ambroise Croizat, notamment.
Hein, par exemple.
Le père de la sécurité sociale.
Voilà, j'avais lui en tête. Et on l'a construite contre l'état de Pétain d'avant, contre certaines valeurs. Et mine de rien, y a une mémoire qui se perd. Il y a des gens qui meurent, en effet. Il y a des vieux qui meurent, une mémoire qui s'efface. Et des apprentis sorciers derrière, et des confusionnistes comme ça. Pays finito. Pays finito.
Et tu cites du Macron carrément.
Sur ce message d'espoir.
Finito.
Non, mais parce que tu dis que effectivement il y a le sujet, c'était un des premiers, c'est le premier communiste, et qu'il pourrait y en avoir d'autres. Mais là, en l'occurrence, est-ce que je ne sais pas si Macron a précisé qu'il était communiste, il a parlé de la résistance, parce que les drapeaux communistes, me semble-t-il, ont eux été interdits à proximité. Toi qui étais, est-ce que tu as vu ou
non, pas moi, mais j'ai des collègues qui étaient dans les rues adjacentes. Et effectivement, il était interdit de venir avec les drapeaux communistes.
On ne pouvait pas brandir, ils ont été interdits.
Roussouflot, voilà.
Juste la rue qui mène au Panthéon, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, à proximité du Panthéon, on n'avait pas le droit de brandir un drapeau communiste.
Ouais, et on a publié, je pense, la seule photo dans l'Humain où, au fond, on voit trois drapeaux communistes. alors que pour la panthéonisation de Jaurès dans les années 20, c'était des marées rouges de drapeaux. Enfin, faut voir sur la dépolitisation des panthéonisations. C'est assez phénoménal, mais je pense que ça s'explique tout simplement parce que Macron, il n'a pas d'histoire politique en réalité. Il arrive en 2017, son mouvement politique, il n'a aucune histoire. Donc lui, il est obligé de faire un braconnage mémoriel, d'aller sur les terres des autres pour aller honorer Simone Veil, les communistes. Il avait déjà reconnu, par exemple, la responsabilité de l'État dans l'assassinat de Maurice Audin, qui était un militant anticolonial algérien qui a été assassiné par les Français. Et donc en fait, il est obligé.
Et puis, en même temps, Pétain était un grand soldat.
Voilà, et en même temps, ça. Et donc en fait, il est obligé d'aller un peu partout. Et donc en allant un peu partout, comme c'est pas les mémoires qui lui appartiennent, il est obligé de dépolitiser un peu tout ça. Et il dépolitise. Quand il fait Manouchian, il en fait un Français patriote. Mais Manouchian, s'il aimait la France, c'est parce que c'était la France des Lumières, c'était la France de la Révolution française qu'il aimait. C'était pas la France des cathédrales et la France de Marine Le Pen.
Parce qu'il faut rappeler que Manouchian était arménien, avait survécu au génocide arménien, apatride. D'arriver en France.
Il a demandé deux fois la nationalité française, en 33 ou en 34, pardon, je ne sais plus, et en 40, et ça lui a été refusé deux fois.
D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à sur ce sujet?
Non, juste cette opposition, parce qu'on a vu, au-delà de la présence de Marine Le Pen, on l'a vu surtout tout sourire quand elle avait une caméra face à elle, et en face, on a des drapeaux communistes qui ont été retirés, et en fait, de mettre ces deux images en opposition, c'est pour ça que je suis un peu en désaccord avec la secrète jubilation de l'ami Jean-Luc, c'est que en réalité,
T'as vu Marine Le Pen jubiler, toi?
Bah oui, c'est plutôt elle qui jubilait, et c'est plutôt elle, si on doit parler de victoire, de genoux à terre, c'est plutôt elle qui a gagné, et c'est ça qui me fait chier.
Surtout quand tu l'écoutes parler après et te dire il faut rendre hommage à des résistants, enfin, elle rentre dans le discours mainstream, en fait, qu'on attend.
Et à ce moment-là, elle parle même de son père et de la Légion étrangère en disant oui, j'ai un lien avec les Légions étrangères. Effectivement, c'est vrai, Jean-Marie Le Pen, il s'est engagé dans les Légions étrangères. C'est pour aller mater les répressions dans les colonies, en Indochine et en Algérie. Donc c'est l'inverse des combats de Manu Jean. Et c'est dans les Légions étrangères, parce que, où il n'y avait pas que des gentils étrangers, il y avait des anciens nazis, des nazillons recyclés. Et c'est là-bas qu'il a récupéré son couteau des jeunesses hitlériennes, par exemple. Donc entendre Marine Le Pen dire ça sur France 2 dans le Panthéon à l'occasion de la panthéonisation de Manouchian, c'est à vomir.
C'est une provocation. C'est ce qu'elle fait là.
Mais en fait, si elle y allait pas, c'était reconnaître politiquement qu'il y avait un lien entre elle et Vichy.
Parler de la Légion étrangère et de sa famille, ce qu'elle essaye de faire oublier, son père, etc. Et là, elle le ramène au Panthéon. Enfin, c'est une provocation. Moi, il me rend dingue. Hein. Moi, je te dis,
Je sais pas si t'as vu son tweet cet après-midi, mais...
Ah oui, 100 millions de morts.
Emmanuel Macron, il a rendu hommage aux communistes. Vous imaginez, les communistes, c'est les méchants.
Mais oui, elle a fait un tweet, 100 millions de morts, machin, les communistes. Mais fallait pas venir hier, à ce moment-là, toi, si t'aimes pas les communistes. Enfin, évidemment que t'aimes pas les communistes, parce que historiquement...
Et pas les étrangers non plus, logique. En plus, donc...
Mais ça rend fou, hein.
Ça rend fou.
Ça rend zinzin.
France finito, c'est le mot de la fin.
Finito pipo.
Usul finito aussi, non?
Ah, moi je suis finito.
c'est première partie finito parce qu'on va, on va passer à la pause dans pas longtemps. Donc merci beaucoup, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous, Emilio. C'était vraiment super. Emilio Mellet de l'Huma. Où est-ce qu'on peut lire? Où est-ce qu'on peut lire l'interview si on l'a pas, si on l'a pas déjà lu et que lundi s'est passé et que du coup on ne sait pas où est-ce qu'on peut racheter le journal?
Le journal était resté dans les kiosques jusqu'à hier pendant 3 jours, mais maintenant il y est plus et donc il est sur le site de l'Humanité, humanité.fr.
Question Emilio, vous avez plus vendu ou pas?
Eh ben, on n'en sait rien encore. On saura dans 15 jours.
Okay.
En tout cas, moi j'avais profité de la petite offre Backseat pour m'abonner à l'Huma en septembre dernier. Mon abo s'est terminé, j'en ai profité pour me réabonner à l'Huma cette semaine.
Bah bravo.
Bravo.
Mais ça, je demandais pas des applaudissements, mais juste en réalité, faites-le parce que c'est archi intéressant.
Merci, merci de nous l'avoir rappelé. Merci beaucoup Emilio, merci Luma. On se quitte maintenant pour la pause, mais juste avant, je voudrais remercier tous les gens qui rendent possible cette émission en nous finançant, et notamment cette semaine, j'ai les prénoms, c'est Pierre, Mireille, Karim et Sophie qui ont pris leur abonnement, donc merci à vous, merci pour les sous, et continuez à vous abonner sur Kiss Kiss Bank Bank. C'est la pause, et après la pause, l'interview de l'invité politique, voilà, Philippe Brun, juste après la pause, député de l'heure.